Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty, votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bienvenue à l'émission Tant qu'il y aura des femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous retrouve comme chaque premier et troisième jeudi du mois. Ce soir, nous recevons des jeunes filles. Nous recevons deux comédiennes, Mademoiselle Diane Martin.
Bonjour.
Bonjour. Et Mademoiselle Lucille Arnaud.
Bonjour.
Mademoiselle, bonsoir d'être venue. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci pour l'accueil.
Avec plaisir.
Plaisir partagé. Nous allons vous présenter un court-métrage Sorcière.
C'est oui.
Ça, que vous avez co-écrit et co-réalisé.
Ensemble, c'est ça, oui.
La sorcière est un personnage récurrent dans les contes, les romans, les films et les fêtes populaires. Il faut savoir que le mot sorcière est un mot populaire latin qui s'appelle sorciarius, disent bien, diseur de sorts, jeteur de sorts, pratique la sorcellerie. Diane, qu'est-ce qu'une sorcière pour vous ?
Pour moi, une sorcière, c'est une femme, tout simplement, qui déplaît par son indépendance, par son mode de vie, par quoi que ce soit, en tout cas, il faut l'éliminer, apparemment.
Oui, mais enfin, nous sommes encore là, quoi qu'il en soit.
Partiellement, oui. En tout cas, il y a encore du travail, on va dire.
Il y a encore du travail, c'est voilà. Sûr. Et pour vous, Lucille, que représente une sorcière ?
Je suis assez d'accord avec Diane, dans le sens où c'est vraiment, pour moi, rattaché à une question d'autonomie. Et la manière dont on a voulu traiter le sorcière dans notre film, c'est vraiment comme quelque chose où on voulait, comme une accusation. On pose une étiquette sur une femme qui est un peu trop indépendante.
Oui, c'est ça. Vous êtes toutes les deux magiciennes, puisque vous êtes toutes les deux comédiennes. Donc, vous êtes donc toutes les deux rousses, donc ces cheveux de feu que les sorcières avaient. Je vais commencer à avoir très peur de vous avoir toutes les deux.
C'est un peu dangereux, attention.
Diane, toute petite, vous avez été attirée par la scène et la représentation. Vous voulez être artiste, absolument.
Je voulais être artiste, mais j'ai mis pas mal de temps avant de le devenir. Je suis passée par plein de circonvolutions. Mais c'est plutôt sur le tard, finalement, que je m'y suis mis. Mais ça a toujours été autour de moi et quelque chose qui m'a attirée.
Et vous avez suivi des formations ? Quelle formation vous avez suivi pour cela ?
J'étais au Studio Müller. Et puis après, évidemment, j'ai participé aussi à des stages, des workshops pour progresser dans tous les domaines qui m'intéressaient.
Et puis les fameux cours Florent qui...
C'était un petit stage d'été. C'était ma première petite formation que j'ai eue et qui m'a donné envie de continuer aussi.
Ouais, mais j'ai la sensation, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le cours Florent, on a l'impression qu'il formate un petit peu les comédiens et qu'on a envie de partir un peu de ça pour avoir des expériences autres, peut-être d'improvisation par exemple, de choses comme ça.
Pour le coup, comme moi, c'était vraiment juste un stage d'été. Je ne pourrais pas avoir le recul des personnes qui font l'école, mais en tout cas, moi, l'école que j'ai faite, j'ai vraiment, vraiment apprécié y être.
Et moi, je connais pas mal de personnes qui y sont et je crois que ça dépend. C'est très variable en fonction des enseignants.
Mmh. Ah oui.
Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants et il y en a qui sont formidables.
Eh bien, écoutez, donc on salue le cours Florent.
C'est ce que j'ai entendu.
Et j'enlève ce que je viens de dire. Vous faites du chant, c'est ça ?
Oui.
De la danse, du jazz, du tango, argentin, etc. Vous êtes danseuse, en fait, aussi.
Je ne suis pas danseuse, mais par contre, je développe plusieurs compétences. Effectivement, en tant que comédien, c'est hyper important d'être polyvalent. Et oui, du coup, j'ai une petite base de tango, de moderne, jazz aussi, et puis du chant... Puis en fait, vraiment, dès qu'il y a quelque chose à apprendre pour les tournages ou autre, moi j'adore. Hein.
Donc, bien. Des instruments, vous jouez des instruments aussi ?
Oui, j'ai des bases pareilles en guitare, en violoncelle et en piano.
Voilà.
Merci Lydia, j'en apprends tous les jours.
Alors Lucille aussi, dès l'enfance aussi, l'envie d'être comédienne.
Moi j'ai vu, j'avais 6 ans et j'ai vu mon père jouer sur scène. En fait, il était dans une compagnie amateur pendant des années et c'était des personnes qui avaient un travail, chacun un métier. Et ils se retrouvaient une ou deux fois par semaine pour répéter et faisaient une pièce à chaque fin d'année. Et les bénéfices, ils les reversaient à des associations. Et j'ai vu à 6 ans mon père jouer un infirmier fou et... J'ai adoré. Il m'a inscrit au théâtre à la rentrée d'après. Donc,
génial.
Donc, merci, papa.
Oui, c'est bien. Un film est fou, c'est incroyable pour un enfant, j'imagine.
Ouais, ouais, bah, c'est super de voir un parent jouer et être dans cette liberté que la scène offre.
Absolument, absolument. Formation aussi également, donc.
Oui, bah du coup j'ai un peu grandi dans le théâtre en faisant des cours, en participant à des pièces. J'ai grandi à Besançon et j'étais au sein de la compagnie Bacchus et ensuite j'ai fait un master d'études théâtrales pour le côté théorique et une prépa littéraire. Et puis, côté technique, j'ai été dans des conservatoires dans des arrondissements à Paris avec Jean-Luc Galmy, Chéric Frey, Emiliana Maillet. Et puis aussi, j'ai pas mal bossé avec Marc Ernotte dans le training qu'il propose au Théâtre 14.
Ah oui, super. Vous faites aussi de la réalisation, vous êtes metteur en scène, c'est ça vous,
Ouais, voilà, ouais. Moi je viens du théâtre et je me suis mis à l'image il y a quelques années et je viens vraiment plus du théâtre. Et donc j'étais metteuse en scène et c'est grâce à un peu à ça que j'ai pu basculer vers la réalisation après. Quoi.
Super. Alors, l'histoire de sorcière, la raison pour laquelle vous avez décidé de se faire ce... Alors, j'hésite entre court-métrage, parce que je trouve ça joli, court-métrage, vidéo, je ne sais pas si c'est vraiment le mot approprié.
C'est le mot court-métrage, c'est très bien.
C'est court-métrage,
oui, oui.
Hein. Oui. Pourquoi un court-métrage sur les sorcières, les femmes?
C'est Diane qui m'a proposé qu'on travaille ensemble.
En fait, moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet-là, enfin... de la place de la femme dans la société, pour être plus précise. Et en l'occurrence, tous les ans, il y a le concours Nikon. Cette année, le concours, le thème, c'était le feu. Et en fait, dans ma tête, dès que j'ai vu le thème, ça a fait feu, sorcière. Et là, tout de suite, je voyais enfin l'opportunité. Enfin, il fallait que ce soit maintenant que je parle de ce sujet. Et j'ai pensé à Lucille pour m'accompagner dans l'histoire, et elle a accepté, donc voilà.
Je suis très contente d'être rousse, parce que peut-être ça a aidé au choix
aidé,
aussi.
Oui.
Ce n'est pas la seule raison, quand même.
juste un petit mot sur ce festival, il existe depuis déjà quelques années.
14 ans, oui.
Et quelle est la thématique, vous m'avez dit un format de court-métrage, c'est ça?
Alors, donc le festival Nikon est organisé notamment par Alexandre Dino. Cette année, c'est la 14e année. Chaque année, il y a un thème particulier. L'année dernière, c'était le nombre 13. Cette année, c'est le feu. Il y a eu le jeu. Il y a eu je suis quelque chose. Mm-hmm. Et ça change tous les ans. Et ça se passe sur Internet, ce festival. Et en fait, il y a une contrainte qui est ça doit être un format de 2 minutes 20. Le festival prend beaucoup d'ampleur chaque année. Maintenant, là, il y a 2800, un peu moins de 2800 films qui ont été proposés au festival.
Fantastique. Donc, j'ai dit que vous étiez rousse. Vous êtes toujours magnifiquement rousse. Voilà.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé. Les sorcières, à l'époque, cette rousse, ces cheveux feu, c'était un problème pour elles. Elles étaient déjà, ne serait-ce qu'avec leurs cheveux, déjà décrits. Elles étaient déjà les sorcières dès la naissance, quelque part.
Ah, ça faisait peur parce que c'était le diable, en fait, pour eux. C'est ça qui était...
Oui, c'est ça.
L'idée qu'il y avait quelque chose qui sortait un peu du lot, forcément...
Forcément. En plus, une femme...
Montrait du doigt, quoi.
Oui, oui. Je pense que les roues avaient moins de problèmes que les rousses, à l'époque, sans doute.
Ça devait quand même pas être facile, je pense. Ouais. Mais ça rajoute effectivement le côté féminin.
Bien sûr, bien sûr.
En fait, c'est là où la question du bouc émissaire, celui qui est différent, que ce soit la rousseur ou autre chose. La sorcière, elle est un peu... mise au pilori pour l'exemple, celle qui sort du lot, comme tu disais, Diane.
Oui, tout à fait.
C'est ça, il y avait vraiment des minorités en fait, qui étaient jugées dangereuses, mais c'était aussi le cas, par exemple, pour les lépreux, les juifs, les hérétiques ou encore les homosexuels.
Tout
quoi.
À fait, tout à fait. Pour votre court-métrage, vous avez dû faire des recherches, j'imagine. Alors, où est-ce que vous êtes allé trouver des informations sur les sorcières, parce qu'il y a très peu d'informations, j'imagine. Est-ce que je me trompe?
Il y en a quand même pas mal. Il y en a dans les livres, il y en a sur Internet. Après, il faut faire le tri, évidemment, des sources et puis regrouper tout ça. Mais oui, on a fait pas mal quand même de recherches au début, notamment. Je ne sais pas si toi, tu voulais parler des livres. Moi, il y avait des livres qui m'avaient pas mal intéressés, comme « Chasse aux sorcières, voyage au cœur de la puissance et de la persécution de la sorcière ». Donc, c'est un livre de Kristen J. Solé. Là, il y avait pas mal de références. Où il y avait aussi La sorcière et l'Occident de Guy Bechtel, qui était c'était très intéressant, que j'invite à aller lire.
Et moi, quand Diane m'a proposé le court-métrage, j'étais en train de lire La nuit des béguines de Aline Kinner, que j'ai juste ici. Et en fait, c'est, les béguines, c'est des femmes qui, juste avant la grosse chasse aux sorcières, il y avait des béguinages, notamment à Paris. Et c'est des communautés de femmes, en fait, qui vivaient en autonomie. Elles avaient un travail dans la ville, elles n'étaient pas sujettes à leur époux, elles n'avaient pas d'époux, c'était souvent des veuves, et elles vivaient en communauté. Et ensuite, les béguinages ont été interdits, et c'est à partir de cette époque-là que la chasse aux sorcières a vraiment explosé.
Et là, on est à quelle époque ? On est en France, n'est-ce pas ?
Oui, on est en France. Et là, pour ce roman, on est en 1310.
Ah oui.
Voilà.
Oui. Les recherches que vous avez pu faire, c'est souvent les hommes qui parlent des sorcières. Est-ce que vous avez trouvé des textes écrits par des femmes ? Est-ce que ça existe, ça ?
Là, j'ai Sorcière de Mona Chollet.
Oui, ça, je sais. Est-ce qu'à l'époque,
il y a
des femmes qui ont pu écrire sur leur histoire ? Est-ce que ça existe ? Moi, je n'en ai pas trouvé.
Y a quand même... alors, voilà, parce que ça se recoupe un peu avec les sorcières, c'est les sages-femmes.
Oui, c'est ça.
Elles ont été aussi traitées de sorcières. Il y a quand même une sage-femme célèbre, Louise Bourgeois, qui a rédigé le premier livre obstétrique. Donc... d'une certaine façon, ressemble. Ça peut répondre à la question. Il y en a qui ont même essayé quand même.
Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai vu qu'au début du Moyen Âge, Clovis a promulgué le Lex Salica, condamnant les sorciers à payer une forte amende. C'est-à-dire qu'au départ, déjà, il fallait payer. Après, le pape Jean XXII, en 1326, marque le début des procès. Donc on commence, et ça va durer pendant 4 siècles. La chasse aux sorcières, en fait, a deux vagues. J'ai vu que c'était de 1480 à 1520 environ, puis la seconde vague de 1560 à 1650. Mais ces femmes, en fait, ces femmes sorcières, appartenaient souvent à la population, c'était des femmes du peuple. Donc souvent sans défense, bien entendu, isolées, bien entendu. Et puis la majorité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la majorité des sorcières étaient lynchées sans aucun procès. Enfin, il n'y avait pas de procès vraiment au début, j'imagine.
Bah, ils ne prenaient pas vraiment le temps, mais comme tu le disais, c'est souvent des femmes qui n'avaient pas de défense. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup parmi les sorcières qui ont été condamnées, des célibataires ou des veuves. Donc,
oui, c'est ça.
Avec personne qui pouvait vraiment les aider.
Qui ne peut pas te défendre, en fait.
Ouais. Et puis, quand tu parles de procès, moi, ça me questionne, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, un procès pour sorcellerie ? Il y avait des espèces de preuves que ce sont des sorcières, par exemple. Il y avait des tortures où ils piquaient les femmes sur des irrégularités de la peau qui étaient censées être insensibles. Et tu avais certaines femmes qui... sous ce choc-là, s'évanouissait et donc ne réagissait pas à la douleur. Et c'était la preuve qu'elle était sorcière. Ouais. Comme Lord Ali aussi, où une femme est plongée dans un lac.
Semble-t-il, oui, ça c'est drôle. Ça, c'est drôle.
Et en fait, si elle coule, c'est que c'était pas une sorcière. Si elle flotte, c'est une sorcière, donc il faut la tuer.
Oui,
aucune chance de s'en sortir. Ouais.
Donc voilà, il y a eu sans doute des drôles de procès pour sorcellerie.
C'est sûr. Et l'estimation, en fait, le nombre de femmes brûlées vives sur le bûcher, pendues ou torturées, moi j'ai 45 000 ou 50 000 femmes, je ne sais pas. Parce que les chiffres, j'ai vu, quand j'ai fait des recherches, c'était fluctuant.
C'est très fluctuant, je pense qu'ils n'ont pas non plus la possibilité de savoir toutes les personnes qui ont
été
exécutées.
Il y a quelques éléments des procès qu'il y a pu avoir quand même, parce que je crois qu'ils ont quand même... comme ça coûtait une certaine somme, il y avait quand même des factures, si j'ose dire, sur le coût des procès. Donc peut-être on a des informations. Alors, Lucille, il y a eu les sorcières de Salem aux États-Unis. Là, c'était extraordinaire aussi, parce que la chasse aux sorcières en Amérique du Nord, des chiffres, 140 hommes et femmes furent reconnus coupables, 14 furent pendus, Une femme fut lynchée à mort et d'autres sont morts dans les geôles des États-Unis. Il y a aussi une histoire intéressante, enfin, si j'ose dire, c'est Catherine Monvoisin. Moi, c'est une histoire qui m'a toujours fasciné, dit la voisin. C'est-à-dire, c'est une chasse-femme empoisonneuse. C'est à l'époque de Louis XIV, donc Louis XIV, c'est quand même une époque où les femmes étaient quand même assez assujetties à l'homme. Et donc, cette femme faisait, semble-t-il, affaire de poison, etc. etc. Et bien évidemment, la cour a été éclaboussée, mais les femmes de classe privilégiée ont échappé à tout procès. Et Madame Lavoisin a été, bien entendu, tuée. Si on remplace le mot « sorcière » par le mot « femme », simplement, la chasse aux sorcières est une culture biblique. C'est un petit peu ce péché originel qu'on nous impute, en fait. Cette espèce de... C'est un peu à cause de Ève qui a donné la pomme à Adam, et ça a été un problème, et ça continue, en fait. C'est une espèce de malédiction que nous avons transportée depuis des années, et que nous avons encore, et votre film le dit aussi encore aujourd'hui, on va un peu revenir à notre époque, et c'est vrai que les femmes ont cette sensation d'être maudites, quelque part, par l'environnement dans lequel elles sont.
De Ève ou de Lilith, parce que Lilith, oui. Y a aussi une femme parallèle à Ève dans certaines rêveries autour de la Genèse, où c'est une femme qui a les cheveux longs et roux, je crois d'ailleurs, oui. Et qui est vraiment très associée au diable pour le coup. Oui. Et la source un peu des malheurs. Je pense que sorcière, on le voit comme femme, en tout cas, c'est clair. On a voulu le voir comme ça.
Les empêcher. Mais ces femmes avaient quand même des savoirs absolument incroyables, parce qu'elles les plantes, elles soignaient les gens, et les femmes venaient voir ces dites sorcières pour les contraceptions et puis évidemment les IVG aussi. Donc elles avaient quand même un rôle important.
Ouais, sachant que l'avortement, c'était vraiment pas bien vu à l'époque. Donc,
pas trop non plus maintenant.
C'est
aujourd'hui, ça dépend des pays.
Ça aussi qui posait problème. Hein. La place de la femme, c'était vraiment de procréer. Moi, j'avais trouvé une phrase qui était assez sympathique. C'est « La femme est chaude et humide. C'est un réceptacle de la semence masculine. Elle est dominée. » Voilà, ça, c'était la définition de ce que doit être une femme. Simplement.
Absolument.
C'est une question de quelle est la place de la femme dans la société. Et dans, par exemple, l'histoire des femmes de Michel Perrault, que je recommande vraiment, parce que c'est un ouvrage très, très riche et qui permet de comprendre beaucoup de choses. Les femmes en Grèce antique, les femmes à l'extérieur, c'est le désordre.
Oui.
Et en fait, donc la place de la femme, c'est à la maison.
C'est à l'intérieur, absolument. Ouais. Un peu de musique alors ?
Avec plaisir.
Alors, comme d'habitude, c'est vous qui avez choisi la programmation. Alors, Automne par les Sœurs de Cœur. Dites-nous, c'est qui les Sœurs de Cœur ?
Alors, Automne, c'est une amie à moi.
Ah,
et c'est une très belle artiste. Elle a écrit pour tous les clous qui dépassent, qui sont ses sœurs. toutes ses amies qui dépassent un peu.
Ah, super. Donc, Automne, Sœurs de Cœur.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
À mes potes, à mes copines, à mes sanguines, à mes sœurs de cœur, à mes potes, à mes copines, à mes sanguines, à mes sœurs de cœur, aux amoureuses combattantes, aux bienveillantes et aux grandes gueules, aux volages et aux matrices, aux anarchistes et aux artistes, à mes potes, à mes copines, à mes sanguines, à mes sœurs de cœur, aux fêtards et aux pétardes, aux sans-culottes et aux salopes, aux picassiettes, aux adeptes de la sieste, à mes sœurs de cœur.
sorcière. Aux douces amères et aux doudingues. Aux marginales, aux originales. Aux branleuses et aux audacieux. À mes potes, à mes copines, à mes sanguines, à mes sœurs de cœur, à mes potes, à mes copines, à mes sanguines, à mes sœurs de cœur, aux névrosés, aux angoissés, aux rebelles et aux sans-gêne, aux apaches et aux pudiques, aux sans-attacheuses excentriques, à mes potes, à mes copines, à mes sanguines, à mes sœurs de cœur, à mes potes, à mes copines, à mes sanguines, à mes sœurs.
Salopard. Alors, ça y est, nous y sommes, nous sommes... on vient d'écouter, en fait, automne, hein, c'est ça, hein, n'est-ce pas?
Oui,
Lucie,
oui.
C'est une de tes amies.
Oui.
Les Sœurs de Cœur. Nous sommes avec Lucille et Diane. Vous allez trouver leur nom de famille, parce que vous allez, bien entendu, aller sur le site du festival pour les aider à être une des premières, à avoir des récompenses dans ce festival, parce qu'elles le méritent bien. Voilà. Nous parlons des sorcières, parce qu'elles ont fait un court-métrage sur les sorcières. Vous êtes toujours sur Allégre FM, vous avez bien compris ça, hein, toujours tant qu'il y aura des femmes. Les sorcières, alors en fait, ces femmes qui ont été mises sur le bûcher, elles avaient quand même un savoir empirique, ancestral, Lucille.
Oui, il y a toute la question des guérisseuses, des herboristes qui pratiquaient une médecine... qui n'était pas forcément la médecine pratiquée par les hommes et institutionnelle. Et du coup, il y a beaucoup de savoir...
oublié, c'est ça que vous voulez dire?
Oublié ou en tout cas pratique et que ces femmes, du coup, exerçaient et...
C'est-à-dire que la façon de soigner était très différente en fait par rapport à après, bien avec sûr. L'arrivée de la science, c'est que c'était des femmes qui s'intéressaient vraiment à l'humain,
oui.
Qui laissaient place aussi à l'émotion. Et ensuite, avec la science et la connaissance, c'est devenu un petit peu plus distant et froid en fait dans la façon de traiter le patient. Et ça a fait qu'ils ont vraiment mis à l'écart ces femmes et même montré du doigt par rapport à leur pratique, quoi.
Sachant que la médecine naturelle revient, c'est-à-dire qu'on se soigne avec les plantes beaucoup plus, beaucoup de médicaments sont en base de plantes de toute façon. Donc c'est vrai que la question qu'on pourrait se poser, c'est si ces femmes n'avaient pas été brûlées, quelle société on aurait, enfin, on peut se poser la question, parce qu'elles avaient sans doute des choses à nous montrer, des choses à dire, et le rôle de la femme aujourd'hui aurait peut-être changé. Mais parlons du court-métrage, n'est-ce pas?
Avec plaisir.
Donc, vous l'avez donc coécrit, vous avez coécrit le scénario, donc.
C'est ça.
C'est pour donc ce festival dont on parlait tout à l'heure. Alors, l'idée de votre court-métrage, c'était de faire un parallèle entre la vie des femmes aujourd'hui et la vie des femmes au Moyen-Âge ou au temps passé. Vous avez donc créé, semble-t-il, trois figures de femmes qui sont critiquées pour leur agissement, n'est-ce pas? C'est ça l'idée. Racontez-moi un petit peu ce court-métrage, comment ça commence, en quelle époque, etc.
Oui, alors ça commence à l'époque de la Renaissance. Et donc du coup, on a choisi trois figures de femmes différentes. On a voulu montrer trois femmes indépendantes, mais à chaque fois dans leur domaine. C'est-à-dire qu'il y a une sage-femme, il y a une guérisseuse et il y a une femme libre. Libre dans son corps, voilà.
Qui n'est pas mariée, qui a des amours libres. Et du coup, l'idée, c'était avoir ce chiffre 3, un peu le chiffre magique. On a trouvé une troisième actrice rousse. ouais, pour jouer avec
ouais,
nous.
J'ai vu, magnifique.
Ouais. Ouais, l'idée, c'était ce savoir de guérisseuse, ce savoir de sage-femme et cette liberté par rapport à l'homme. Qui était notamment, dans nos recherches, on a trouvé que c'était notamment pour ces raisons-là que les femmes étaient sacrifiées.
Sacrifiées, oui. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que les femmes courent des dangers dans les villes ? Est-ce que la ville, ça peut être dangereux pour une femme ?
La ville, la campagne, oui. Je pense que ça reste dangereux d'être une femme. Évidemment, il y a quand même eu des progrès... au niveau de la société, mais on voit à tout moment que ça peut basculer, parce qu'il suffit de se balader dans la rue un peu tard, et si on est toute seule, il y a des remarques, voire des mecs qui nous suivent, on n'est pas safe, quoi.
Il y a une vraie question sur quelle occupation peut avoir une femme dans l'espace public. Il y a le podcast Les couilles sur la table de Victoire Tuyon qui parle notamment de ça, de comment la ville est aménagée vraiment pour les hommes, en fait, avec des espaces sportifs qui sont monopolisés par les hommes, avec cette question de la femme le soir. En fait, moi, je connais très peu de femmes qui n'ont jamais été embêtées. Et qui, du coup, la question, c'est est-ce qu'on est libre de marcher quand on veut ? Sans avoir à se justifier, sans avoir à dire des phrases du genre « je rejoins mon copain ».
Oui, et puis savoir les rappels sexués. Donc vous faites,
exactement.
Oui, constamment. Alors, j'ai trouvé un petit texte ça m'a fait rire, enfin, quand j'ai sourire. En 1393, il est conseillé aux femmes d'avoir un comportement exemplaire dans l'espace public. Voilà ce qu'on conseille aux femmes.
Lorsque vous vous rendez en ville en cheminant, maintenez la tête droite, les paupières franchement baissées et immobiles, et le regard droit devant vous à une distance de 4 toises fixant le sol.
Évitez de regarder autour ou d'arrêter vos yeux sur un homme ou une femme à droite ou à gauche, de lever la tête ou de laisser votre regard errer sans but.
C'est incroyable quand même.
On va d'un point à un autre et...
Oui.
On trace. Et on n'a pas à être dehors, encore une fois.
À interagir avec, ouais. Avec l'environnement dans lequel on est. Bon, mais bon, on ne va quand même pas suivre tout ce mauvais conseil, quoi qu'il en soit.
On va éviter, quoi, si on veut vivre.
Donc, ça veut dire on constate, en fait, que les femmes, dans l'espace public, n'ont pas sa liberté d'évoluer, en fait, quelque part. Parce qu'elle est sous le regard des hommes et elle est constamment rappelée à son état de femme, à son genre, en fait, quelque part.
C'est qu'elle doit être à la maison, donc forcément.
Au Moyen-Âge, la situation des femmes était le mariage ou la procréation. Pas de possibilité autre. Ça veut dire que le corps de la femme ne lui appartient pas encore à l'époque, mais est-ce que le corps de la femme nous appartient aujourd'hui ? Est-ce que notre corps nous appartient aujourd'hui ? La question peut se poser.
Vaste question, oui.
N'est-ce pas ? Donc, cette possession du corps, c'est un droit fondamental des femmes, car il est l'essentiel pour leur émancipation. C'est important qu'on puisse décider de notre corps comme on veut, quand on veut.
Mais la question, du coup, se pose, notamment, je rattache ça à notre métier, la question du physique des femmes comédiennes. On le voit à Hollywood, mais ça existe aussi en France. C'est pas du tout la même question que pour les hommes. Et tu m'avais raconté une anecdote sur le salaire des acteurs âgés et des actrices âgées. Et je crois que ça va t'intéresser, Lydia.
Ouais. Oui, c'est qu'en prenant en âge, les acteurs sont un peu plus payés. Et en prenant en âge, les femmes sont moins payées.
Moins payées,
tout simplement.
Incroyable. Oui, parce que tu fais partie d'une association aussi.
Oui, je fais partie de l'AFA, Actrices et Acteurs de France Associés, et principalement de la commission Tunnel de la Comédienne de 50 ans, qui s'intéresse vraiment à la position de la femme par rapport à son âge dans la société.
Pour revenir au Moyen-Âge, les femmes au Moyen-Âge étaient des vierges, des épouses ou des veuves. Alors, la question aujourd'hui, est-ce que le foyer de la femme est un endroit dangereux pour elle ? Est-ce que sa maison est un endroit dangereux ? Parce que la majorité des femmes victimes d'homicides sont tuées par leurs partenaires. Donc, Là aussi, il y a danger. On pourrait croire qu'à la maison, on nous sommes tranquilles parce qu'on fait le ménage. Donc
Bah, un féminicide tous les 3 jours.
C'est ça.
Un féminicide tous les 3 jours. Et régulièrement, ces féminicides arrivent quand la femme prévient qu'elle va partir. Et en fait, du coup, c'est cette reprise d'autonomie.
C'est ça.
Et donc, c'est la boucle est bouclée. Hein. On parle d'autonomie depuis tout à l'heure, d'indépendance. Et du coup, quelle violence est mise contre cette indépendance ? Donc effectivement, même s'il n'y a plus de procès contre sorcellerie, il y a quand même une tentative de contrôler la liberté.
Tout à fait. Sachant que les femmes, 80% des victimes de violences sexuelles ont des complications après psychiques, physiques, etc. Troubles de sommeil, phobie, addiction, troubles du comportement, etc., etc. Donc tout ça aussi, c'est-à-dire que même au moment où la femme n'est plus battue, elle a quand même gardé dans sa chair, dans son corps, cette douleur et cette violence. Et souvent, elles ne sont pas suivies en plus, malheureusement. C'est vrai qu'on peut leur trouver un appartement ou on peut les aider, etc. Mais il y a quand même tout un suivi psychologique. Bon, on va écouter un peu de musique, la Grenade, pour nous détendre. On va se détendre.
Ouais.
Allez, musique. Luciani, c'est ça ?
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat ? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords. J'aboie. Prends garde sous mon sein la grenade. Sous mon sein la regarde. Sous mon sein la grenade. Prends garde sous mon sein la grenade. Sous mon sein la regarde. Sous mon sein la grenade. Déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal. Je pourrais te blesser, oui. Dans la nuit qui frissonne. Prends garde sous mon sein là.
C'était La Grenade avec Madame Luciani, qui vient d'avoir un bébé d'ailleurs. Donc on la salue.
Salut,
bravo.
Nous parlons des sorcières, ces vilaines sorcières qui ont fait tant de mal à ces pauvres garçons. Mais en attendant, aujourd'hui, elles ont été victimes de la rumeur, mais aujourd'hui, les femmes sont victimes du cyberharcèlement, aujourd'hui, qui est une forme de rumeur aussi. c'est un danger particulier parce que ça va très vite. Très vite, il y a les photos intimes qui sont mises sur Internet, etc. Elles n'ont plus le pouvoir de faire quoi que ce soit. Là aussi, il y a un problème.
Oui, bah, c'est encore l'image de la femme qui est attaquée, montrée du doigt. C'est assez facile d'utiliser certaines choses contre la femme. Mais finalement, après, il y a aussi des hommes qui sont cyberharcelés. Donc, j'ai envie de dire que l'image nous concerne tous.
C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai la sensation qu'il y a quand même plus de femmes qui ont des problèmes avec le harcèlement cyber que les hommes. Il y en a aussi, parce qu'effectivement, on découvre que les hommes sont aussi des victimes. On les reçoit volontiers dans le club.
En tout cas, c'est vrai que certaines, pardon, certaines féministes qui se sont ouvertes sur la toile ont effectivement reçu une volée de bois vert pour s'être exprimées, quoi.
Bien sûr. Mais tu disais tout à l'heure quelque chose de très juste aussi. Tu disais que les féministes ne sont pas en colère contre les hommes. Il faut quand même bien souligner. Ça, c'était aussi important de le dire.
Oui, souvent, il y a peut-être une confusion quand on expose ceux que les femmes vivent, souvent certaines personnes, certains hommes, certaines femmes le prennent pour eux, contre eux. Mais en fait, le féminisme, c'est juste travailler à l'égalité et travailler à une société plus juste. Et c'est pas du tout être hystérique, comme on taxe les femmes d'hystérie depuis des siècles, que de se révolter contre une injustice.
En même temps, si on veut d'être hystérique, on sera hystérique aussi. Hein, je veux
dire. La furie.
Ouais, complètement. Alors, la vidéo, sorcière, comment ça s'est passé? Tournage, comédienne, travail?
Beaucoup de travail. Nous, on a écrit en juillet. Et ensuite, on a tourné seulement à partir d'octobre pour la partie à Paris. Parce qu'en fait, on a tourné et sur Paris et en Bourgogne. Voilà, donc toute la partie film d'époque, c'est en Bourgogne.
Attends-les à côté de Tonnerre et on remercie
chaleureusement
Santiago,
oui,
Santiago, la mer.
Et pourquoi en Bourgogne? Vous avez des amis là-bas, c'est ça? Vous êtes,
oui, des amis d'amis. En fait, Santiago, donc, qu'on vient de citer, il a une maison qui est sublime grâce à laquelle on a pu faire les décors intérieurs. Et on a eu un chef déco qui a fait un travail remarquable, Bernard Galfi, qui a transformé et voir ces décors en vrai, alors qu'on les avait vus sur papier. Il a travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois. Voir les décors enfin créés, c'était fou. Et voir toutes les personnes, les figurants en costume le jour du tournage avec Diane, c'était un moment très fort parce que on a rêvé ce moment pendant des mois, quoi.
Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que le film a été tourné, la partie d'époque a été tournée seulement en novembre par rapport au moment où on avait commencé, parce que justement, il y avait un énorme travail de fond sur les costumes et la décoration. Et on ne pouvait pas le faire en un claquement de doigts. Et notre équipe a été formidable parce qu'ils se sont regroupés sur le projet au fur et à mesure. C'est-à-dire que il y a vraiment tout qui s'est aligné et les gens venaient d'eux-mêmes, en fait, sur le projet.
Oui, et même certaines figurantes qui sont venues pour le tournage ont fait des heures de route, Lydia, parce que c'était le sujet sorcière. Oui. Elles se sont déplacées, certaines ont fait 4 heures de route pour venir tourner avec nous. C'est incroyable et on les remercie.
Oui, vous avez fédéré vraiment beaucoup de personnes.
Et ouais, le sujet il y avait beaucoup de femmes figurantes qui sont venues parce que c'était sur les sorcières.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même qui nous interpelle. Ces femmes qui sont brûlées parce qu'elles ont des savoirs et qu'elles aident les autres femmes. Et la sororité déjà, qui existait déjà à l'époque. Autoproduction quand même, il faut savoir, les filles, vous êtes quand même des sacrées gonzesses. Hein.
Bah oui, on a mis nos deniers dans ce film. Et on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a beaucoup aidés par rapport au budget pour savoir comment justement minimiser aussi les frais. C'est Élie Pivard qui est producteur lui-même et qui du coup nous a vraiment aidé pendant le tournage et avant pour que, au niveau des frais, ça ne dépasse pas non plus.
Bien sûr, voilà. Bien sûr.
Avec Diane, on s'est rencontrés au Kino Express, qui est un mouvement du kino qui produit des films, enfin qui fait des films sans attendre forcément des financements. Donc l'idée, c'est d'apprendre à travailler vite et comment faire de la qualité en peu de temps. Et il y a énormément de personnes du kino qui... justement par sororité, fraternité, nous ont rejoint. Super équipe, merci à eux. Ouais,
super merci expérience. Beaucoup. Parce qu'en fait, vous êtes des comédiennes au départ, donc c'était vraiment une nouvelle expérience pour vous. Je pense que ça vous a donné des envies, ça vous a vous... de continuer, d'aller, d'être vraiment derrière la caméra, quoi, plutôt que devant.
On avait déjà réalisé toutes les deux.
Vous avez déjà
réalisé. Mais pas ensemble.
Oui, c'est la première fois qu'on travaillait ensemble. Je pense que... Bon, tu me diras, Diane, si tu es d'accord avec moi, mais ça ne change pas mon envie d'être devant la
bien
caméra.
Sûr, bien sûr.
C'est vraiment deux c'est choses rajouté. Différentes. Là, l'enjeu, comme on joue dedans aussi, c'était vraiment un enjeu de comment être devant et derrière, parce que ce n'est pas la même chose d'être juste actrice, évidemment. Mais quand tu es réalisatrice, comment tu fais pour lâcher et être dans ton personnage ? Mais oui, moi, ça m'a donné très envie de continuer la réalisation et de continuer à faire des projets avec toi.
Bah oui, c'est ça, c'est pareil en fait. Je pense que c'est que le début de l'aventure.
Super, sachant qu'effectivement, pour Diane, par exemple, je vois Validation, donc tu as fait un court-métrage déjà, c'est ça ? Tu as participé ?
Validation, non, j'étais comédienne.
J'ai
réalisé adoptunesœurs.com en 2020.
D'accord. Voilà. Et Lucille, pareil, beaucoup de mise en scène de théâtre, c'est ça ?
C'est ça, et puis j'ai aussi réalisé trois autres courts-métrages en co-réalisation. J'ai réalisé notamment Monsieur Armand, là, avec Alexandre Guilbault l'année dernière, qui est sorti en janvier et qui va commencer sa tournée des festivals. Et avec Diane, pour le film Sorcière, on est en train de monter la version longue qui fera 5 minutes, parce que quand on a tourné en Bourgogne et à Paris, on a tourné d'autres choses que pour 2 minutes 20. On l'a écrit pour le Nikon, mais c'était tellement riche, ces décors et ces situations, parce que quand vous verrez le film, il se passe beaucoup de choses en 2 minutes 20, donc c'était un peu l'enjeu de comment rendre ça
efficace.
Oui.
Et du coup, on va pouvoir un peu se décorseter pour la version longue avant que le film fasse ses festivals.
Oui, enlevez-moi ce corset, je vous en prie. Mais en fait, ce festival, alors il y a des projections, effectivement. Donc je rappelle qu'il faut aller sur le site du festival pour vous aider, c'est ça ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
C'est le site du Nikon Film Festival, donc qui est accessible sur Internet. Et en fait, on peut rechercher avec les noms des films directement. Nous, notre film, c'est « Sorcière » au pluriel. Et si vous tapez « Sorcière » au pluriel, vous allez forcément tomber sur notre film. Et vous pouvez donc le visionner, mais vous pouvez également le soutenir. Et ça va lui permettre en fait d'être en haut de la liste, si je puis dire, et donc que d'autres personnes puissent le voir plus facilement.
Et plus on soutient des films, plus notre voix compte. Et ça, c'est pas mal parce que
ça,
du coup,
vrai,
on n'est pas juste en train de voter pour son petit film personnel. On vote
pour plusieurs films à la fois.
Voilà. Et vous pouvez aussi laisser des commentaires. Ça nous fera très plaisir.
Exactement. Il y a une remise du prix, comment ça va se passer ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va y avoir, on peut visionner les films de toute façon sur le site. Il y a une remise de prix un jour
D'ici une vingtaine de jours, va y avoir l'annonce des finalistes, les 50 finalistes. Donc ça, c'est déjà un passage très important, parce qu'être dans les finalistes, c'est déjà incroyable sur le nombre de films. Et après, plus tard en avril, fin avril, il va y avoir effectivement la remise des prix au Grand Rex.
Et on peut participer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Prendre des billets pour venir ?
Oui, il y a des places qu'on peut acheter auprès du Grand Rex. Il y a effectivement des prix, prix de la meilleure réalisation, prix de l'image, prix du scénario, prix du montage. Et voilà, etc. Beaucoup.
Moi, j'avoue que ce que j'ai bien aimé dans votre court-métrage, c'est ce moment où la jeune fille est dans la rue. Et je suppose, alors bon, évidemment, ce monsieur était très agressif avec elle. Il lui demande du feu. Et tu te retournes et tu as ton briquet à la main. Tu allumes ton briquet et tu dis « j'en ai pas ». J'ai trouvé ça génial parce que vraiment, c'est ça l'histoire.
C'est la reprise du pouvoir.
C'est voilà. La reprise. Mais toujours avec ce feu dans la main.
Toujours avec la classe.
C'est toi qui avais le feu. C'est toi qui avais le feu. C'est la sorcière qui a le feu maintenant. C'est ça qui est incroyable. Et qu'il donne ou qu'il donne pas, d'ailleurs. Donc vraiment, c'était vraiment... Je vous conseille d'aller voir tous ces films parce qu'en fait, ce festival donne un petit peu le pouvoir particulièrement aux femmes ou il y a aussi des hommes, d'ailleurs.
C'est drôle parce que je pense... que quand ils ont choisi le thème, ils ont réfléchi à qu'est-ce que ça pouvait évoquer, quels étaient les différents sujets. Et je pense que le feu est pas mal associé au pouvoir féminin.
Féminin, bien sûr.
Parce qu'il y a beaucoup de films autour de ça et c'est tant mieux.
Mais on peut vraiment le décliner. Enfin, il y a vraiment des réalisations qui ont été faites par des réalisateurs qui sont merveilleuses à découvrir aussi.
Oui, ça traite de plein de sujets
plein
différents,
de sujets,
c'est,
oui.
Ça,
oui, absolument. C'est ça.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, l'avenir. Donc, vous disiez un format plus long, donc 5 minutes.
Oui.
Et est-ce que vous avez d'autres idées que vous avez envie de faire? Est-ce que vous allez rejouer quelque part dans les pièces? Est-ce qu'on peut vous voir quelque part dans les mois qui viennent? Est-ce que vous avez des projets?
Déjà, oui. On pense à d'autres projets ensemble en réalisation. Et puis, bien sûr, si une opportunité se fait pour une version longue de Sorcière, on n'est pas contre. au-delà de ça, vous pouvez aussi me voir dans le film Agnès, qui a aussi un message féministe très important, parce qu'il traite du viol pédophile. Agnès, donc, qui a été co-réalisée par Maxime Hébert et Lucille Bénard, que je vous invite donc à découvrir aussi sur le film, le Nikon Film Festival.
Et moi, je suis actuellement sur scène dans Antigone. Oui. Je joue Antigone. C'est à la Folie Théâtre. C'est mis en scène par Betty Pélissou et c'est les jeudis à 19h30 et les samedis et dimanches à 18h jusqu'au 21 avril.
Jusqu'au 21 avril, bah, super. On a compris aussi que les féministes se sont réappropriées l'image de la sorcière, c'est-à-dire que des années 70, les femmes ont dit, ben oui, nous sommes sorcières, effectivement, nous revendiquons cela. Elles ont réaffirmé la capacité et même le devoir d'être elles-mêmes, être libres de faire leur propre choix. Donc ça, c'était important. La sorcière, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de liberté, de tolérance aussi. Parce que c'est quand même ce que les femmes ont envie de créer, un monde où les hommes et les femmes peuvent vivre ensemble et être comme ils l'entendent et vivre comme ils l'entendent. C'est ça notre projet, en fait. C'est de vivre ensemble.
Juste une égalité parfaite.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mars. Demain, qu'est-ce qui se passe le 8 mars?
C'est la journée des droits des femmes.
Extraordinaire. Donc ça aussi, c'était un moment important qu'on nous donne une journée. C'est pas grand-chose, hein. Bon, mais on prend une journée déjà. Donc on va dire que demain, c'est la fête encore.
C'est bien, ça permet de rendre encore plus audibles les choses qui ne vont toujours pas. Et ça permet aussi de se rassembler.
Oui.
Hommes, femmes, tout le monde pour aller marcher ou même pour parler
d'égalité,
des choses positives, des choses négatives, faire avancer le schmilblick.
Donc c'est bien, c'est-à-dire que ce court-métrage, en fait, ça, il va vivre, il va partir dans d'autres festivals éventuellement, vous avez d'autres... Parce que, je sais pas, le festival où vous êtes propose d'autres choses. J'ai cru lire ça, mais peut-être je me suis trompé. Vous allez présenter ce documentaire dans d'autres festivals?
Alors, du coup, c'est une fiction, c'est pas un documentaire.
Oh, pardon.
Mais non. mais du coup, on va faire la version longue pour après le proposer à d'autres festivals parce que on pense que, vu le sujet, un format de 5 minutes sera plus.
Ouais,
plus intéressant,
plus explicite,
ouais. Et on a envie d'avoir un peu plus de toute cette histoire. Donc oui, le projet, c'est de l'inscrire au plus de festivals possibles.
Il y a des festivals pour les femmes ou des jeunes...
Tout type de festival où ça pourrait correspondre. En fait, les festivals, ils ont des thématiques parfois, ou alors il y a un minutage précis qu'il faut avoir. Donc on verra en fonction de là
de
où on en
allez.
Est, justement, dans lesquels on peut postuler. Mais effectivement, le but de ce film, c'est qu'il soit vu.
Bien
et
sûr.
quelque part, que voilà, ils permettent de discuter, de réouvrir certains dialogues, de continuer le débat.
De continuer le débat, oui.
Voilà, tout simplement.
Mais d'ailleurs, vous pourrez très bien faire un débat après la projection, c'est tout à fait possible.
Mais bien sûr, parfois, c'est ce qui se passe dans les cinémas après la projection, donc avec plaisir pour en parler.
Mais ce sera quand, à peu près ? De quelle période vous allez... C'est au printemps ? Au printemps 2024 ?
Pour la sortie de la version longue ?
Oui.
Oui, ça devrait être à peu près ça.
Eh bien, vous reviendrez nous en parler.
Avec plaisir.
Avec plaisir.
on fera un sujet là-dessus. Y a quand même une bonne nouvelle. C'est l'IVG. Ça y est, on peut, si on veut, ne pas avoir d'enfant comme on veut, quand on veut. On a repris notre corps en main. Donc ça, c'est important. Parce que ces messieurs du Sénat, ils ont décidé qu'ils viennent d'adopter le projet de loi qui vise à inscrire l'IVG dans la Constitution. Qu'est-ce que ça vous donne à penser ?
C'est bien. Moi, je pense que ce genre de droit est fragile et qu'il faut toujours se battre parce qu'on peut très facilement reculer. Dans ce genre de droits sociaux, on peut voir ce qui se passe
outre-Atlantique,
par exemple, c'est terrible. Mais du coup, c'est un combat qui doit jamais être lâché. Mais oui, c'est très positif.
Ouais, c'est une bonne chose, ça avance.
Tout à fait. Sachant que on a tendance un peu à penser que bon, en France tout va bien que ça, mais l'idée c'est que si nous sommes libérés, il faut libérer les autres femmes aussi, quoi.
Oui, je sais pas si en France tout va bien. Il y a beaucoup de personnes qui découragent. Ça va mieux, mais cette question d'IVG, de confort, moi je suis ahurie quand j'entends parler d'IVG de confort, parce que c'est jamais de gaieté de cœur qu'une femme avorte. Et puis il y a quand même des associations qui essayent de décourager des personnes qui essayent de se renseigner sur l'IVG. Et elles essayent de les décourager en essayant les persuader d'être mères, en fait.
Bien sûr. Mais on faut remercier Madame Veil et on faut remercier toutes ces femmes qui sont battues avant nous et qui ont osé se lever.
Merci, Simone.
Merci
beaucoup. Merci, Simone. Alors, comment dire ? Vous remerciez déjà, vous félicitez vraiment parce que ce... Pas documentaire, mais ce court-métrage est absolument superbe. Et vraiment, je pense que vous avez une longue carrière devant vous. J'ai eu plaisir à vous recevoir. Merci infiniment d'être venu sur Aligre FM. Tant qu'il y aura des femmes. Merci à Enrico et Lucas pour leur accompagnement technique. Absolument. Nous sommes dans des nouveaux locaux, donc nous sommes très, très bien. Merci aux auditeurs pour leur écoute. Nous allons écouter la compagnie Joli Môme.
Un grand merci pour votre accueil.
Merci beaucoup, c'était super.
Joli Môme, alors l'hymne des femmes, bien entendu, qui est dans le...
L'hymne des femmes dans à sa film. Place, effectivement, dans le film.
Dans le film.
Oui, puisqu'en fait, nous avons choisi d'intégrer une chanson...
Féministe,
mais sans faire les paroles, pour vraiment la rendre...
Oui.
Et... intemporel, voilà. Et donc, c'est l'hymne des femmes qui a été notre référence.
Et dans le court-métrage, effectivement, les femmes sont dans ce bûcher, elles se tiennent la main et elles commencent justement à entonner voilà. Ce chant.
C'est ça, l'idée, c'est qu'en elles ne vont pas gagner, ces femmes. Elles vont être tuées. Oui. Mais il y a une victoire quand même parce qu'elles meurent en chantant et elles meurent en chantant ensemble.
Oui.
Et il y a quelque chose que ceux qui résistent malgré tout, c'est le fait qu'elles se dressent ensemble et que du coup, le chef qui veut les brûler n'a pas totalement gagné en fait.
Non, parce qu'il est étonné de la réaction déjà.
C'est ça, parce qu'elles chantent et au-delà de tout, il y a encore ce chant.
Absolument. Et surtout, n'oubliez pas, à chaque fois qu'une femme se lève, c'est pour notre humanité. Merci infiniment. Yeah.
sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Le fond, nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes et de nos sœurs séparées. Notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime. Femmes, ensemble révoltons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.